Irina avec vous sur Radio Rabelais dans Alter Ego, notre émission pour la solidarité et le refus des discriminations. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet de notre dossier consacré à l'antisémitisme avec notre invité Daniel Vancier, président du comité Yad Vashem, Nice Côte d'Azur. Daniel Vancier, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que dans une précédente émission, vous nous avez présenté le comité Yad Vashem pour la France, qui est une association qui s'est engagée dans plusieurs missions. Il participe à la collecte des feuilles témoignages permettant d'inscrire les noms des Juifs exterminés par les nazis dans la salle des noms de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Il contribue également à la transmission de l'histoire de la Shoah auprès de la jeunesse et des enseignants français par des rencontres, des expositions itinérantes et l'intervention d'anciens déportés ou enfants cachés qui témoignent dans l'établissement scolaire ou culturel. Ils œuvrent aussi pour la reconnaissance des justes parmi les nations, dont nous parlerons plus tard dans la mission à travers l'exemple de Sœur Thomasine, qui a été récemment honorée à Pey. Dans le dernier numéro d'Alter Ego, vous nous avez raconté comment, enfant, vous avez échappé à la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942, l'arrestation massive de 13 152 juifs organisée par les nazis et exécutée par la police française. Pour échapper à cette arrestation et à la déportation, vous avez été envoyé dans le sud de la France, où vous avez été caché chez des paysans. Les questions de Claire vont aujourd'hui nous éclairer sur votre histoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Comment se sont passées les retrouvailles avec vos parents à la fin de la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, Paris est libéré fin août 1944. Les gens qui s'occupaient de moi, ça s'appelait l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. C'était des étudiants qui s'occupait de nous, des adultes. Moi, je suis rentré le premier, on m'a mis dans une maison d'enfants, parce que je croyais que plus de sœurs, plus de mères, plus de pères. Je rentre le premier dans cette maison d'enfants. À l'époque, on rentrait à l'école le 1er octobre. Je voudrais signaler que je suis rentré à l'école le 1er octobre 1944. C'est la première fois de ma vie où, à l'école, on m'a traité comme les autres. C'est-à-dire, j'étais l'égal des autres, exactement. J'avais la même nourriture que les autres. Les enseignants me traitaient exactement comme un autre. C'était la première fois de ma vie. J'avais l'habitude, si vous voulez, d'être moins que les autres. Et cette fois-là, à l'école, j'étais pareil que les autres. Et ça, c'est quelque chose pour quelqu'un, même pour un enfant, de formidable. De plus avoir peur, d'avoir à manger comme les autres, d'avoir un cahier comme les autres, un crayon comme les autres. Au bout de 2 mois, ma sœur est revenue aussi, et elle m'a trouvé dans cette maison d'enfants. 2 mois après, ma mère qui a survécu aussi, qui avait pu sortir du camp 3 mois après nous, et qui a été cachée, mais dans des endroits différents, en France, dans des fermes aussi, est revenue et nous a retrouvés. Et 7 mois après, il est arrivé un événement qui était incroyable. Un jour, donc 7 mois après, c'est le 9 mai 1945, on tape à la porte de là où on habitait. C'était même pas là où on habitait avant la guerre, mais c'était après, c'était une pièce louée. Et devant la porte, il y a un squelette qui marche, un cadavre ambulant, un homme, si on peut appeler ça un homme, avec des yeux qui lui sortent de la tête, et on me dit, c'est ton père. Il pesait 30 kilos, c'était, comme je vous l'ai dit, un cadavre ambulant. Il rentre, on me dit, c'est ton père. Moi je dis, c'est pas un père ça, c'est un fantôme, c'est autre chose, mais c'est pas un père. Il rentre, il voit des miettes de pain sur la table, vite fait, il les ramasse, il les met dans sa poche. C'était mon père qui était rentré après 3 ans de camp d'Auschwitz.
Votre père est l'un des rares survivants d'Auschwitz. Comment peut-on retrouver une vie normale après avoir connu l'enfer d'Auschwitz ?
Il n'a pas retrouvé une vie normale. Il a eu, d'abord on lui fêtait 2 anniversaires, le sien et le 9 mai 45 quand il est rentré. Jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu quand même jusqu'à 88 ans parce que les gens qui ont survécu à cette horreur, c'était des gens très solides. Tout le temps, à la fin de sa vie, il avait encore des cauchemars. Il vivait la nuit, il criait. Quelques semaines avant son décès, il disait encore, Je ne comprends pas comment le monde entier a pu laisser faire cela au peuple juif. Non, on ne peut pas dire qu'il a eu une vie normale. On ne peut pas le dire. On ne peut pas. Après, il y a encore, si vous le souhaitez, avec l'accord de votre professeur et de principal, il y a encore à Nice quelques déportés qui ont vécu cela, qui viennent quelquefois dans les collèges, dans les lycées. Aucune, puisque ce sont surtout des femmes, il y a encore survivantes qui sont là, aucune ne dit qu'elle est normale. Elle n'est pas normale parce qu'elle vit avec cela.
Plusieurs années après cette tragédie, vous avez choisi de rédiger un livre, Mémoire du convoi numéro 6. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage ?
Oui, mon père est parti à Auschwitz le 17 juillet 1942. Ironie du sort, il est parti du camp de Pithiviers-Bonne-Larlande à côté d'Orléans. On vidait ce camp, c'est-à-dire les autorités françaises, je dis bien, mon père n'a vu aucun Allemand avant d'arriver à Auschwitz, vidait le camp de Pithiviers pour mettre les gens qui avaient été raflés au Veldiv, c'est-à-dire nous. Dans le train qui emmenait mon père vers Auschwitz, il y avait 928 personnes. Sur les 928 personnes, il n'y a eu que 80 survivants, qui depuis, bien sûr, sont décédés. Il en reste un seul actuellement de vivants. Alors, ce livre a été fait pour montrer que les nazis, dans les camps d'extermination et ou de concentration, voulaient complètement déshumaniser les gens, à tel point qu'ils leur donnaient des numéros. Ils n'avaient plus de nom. Ils avaient un numéro qui était tatoué sur le bras. Quand ils faisaient l'appel, qui était terrible, Auschwitz étant Haute-Silésie, il fait très froid, il restait des heures et des heures. Quand il comptait les gens, il ne disait pas des hommes, il disait en allemand des Stück, des morceaux, comme on compte des morceaux de sucre ou autre chose. Alors, on a fait ce livre en essayant de retrouver des enfants, des parents, des 928, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce aux travaux de Serge et Beat Klarsfeld, on a les noms et les prénoms de toutes ces personnes, pour montrer que ces personnes, ce n'étaient pas des numéros, justement. C'était des gens qui avaient eu une vie, qui avaient eu un métier, qui avaient eu quelquefois une famille, des enfants. Ces personnes n'ont pas de tombeau. Puisqu'ils sont partis, ils ont été gazés, brûlés, donc il n'y a que des cendres. À travers ce livre, c'est leur seul tombeau.
Daniel Vancier, merci de ce témoignage précieux. Grâce à vous, nous devenons nous aussi des témoins qui auront pour mission de transmettre la mémoire de ce passé, comme nous rappelle Jean-Jacques Goldman dans « Comme toi ».
Sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, 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 comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant.
Irina et Claire, de retour avec vous dans Alter Ego sur Radio Rabelais. Nous sommes toujours avec notre invité Daniel Vancier, président du comité Yad Vashem, Nice-Côte d'Azur. Des élèves de notre collège ont assisté le 3 mai 2016 à une cérémonie à Peille en l'honneur de Sœur Thomasine, déclarée juste parmi les nations.
Qui sont les justes parmi les nations ?
Alors, les justes parmi les nations, c'est le titre et la médaille que décerne Yad Vashem. C'est la plus haute récompense civile de l'État d'Israël. Un événement unique, récompense unique. Alors, les justes parmi les nations, ce sont des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont sauvé des vies juives, principalement des enfants, mais des adultes aussi, sans avoir d'argent, simplement par devoir d'humanité. Moi, personnellement, il y a deux personnes, deux fermiers qui m'ont caché, qui ont reçu, dans la région de Toulouse où j'étais, le titre de juste parmi les nations. Jacques Chirac et Simone Veil, qui en 1995 ont admis pour la première fois dans l'histoire de France, Jacques Chirac a dit que la France avait commis le 16 juillet 1942 l'irréparable. Simone Veil a dit... Mais il y a eu, dans la nuit noire, des étincelles, des lueurs, et ces étincelles, qui sont l'honneur de la France, c'était les justes parmi les nations. Alors pour avoir ce diplôme, il faut faire des enquêtes, parce que pour ne pas que ce soit galvaudé, c'est comme une enquête policière, il faut absolument qu'il y ait des témoins, qu'il y ait beaucoup de personnes qui témoignent, comme ça s'est passé à Peille, vous l'avez vu à Peille.
Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions qui ont valu à leur auteur la reconnaissance de juste ?
Oui, là où j'étais, par exemple, je peux parler de mon cas, là où j'étais, la milice, la police, la gendarmerie passait. Si vous entendez parler d'enfants juifs, de personnes juives qui sont dans la région, dites-le nous. Sans ça, vous risquez votre vie, on vous mettra en prison. Si on en trouve chez vous ou dans les parages qui sont passés chez vous, on vous mettra en prison. Il y a pas loin de chez nous, de Nice, ici à Saint-Martin-Vésubie, Il y a des gendarmes et des policiers qui ont été nommés juste parmi les nations. Ces personnes-là, ils avaient des familles, des enfants. Ils ont vu d'autres petits-enfants de familles juives. Ils les ont pris et ont dit que c'était leurs enfants qui faisaient partie de leur famille. Ces policiers et ces gendarmes, ils ont désobéi deux fois. Ils ont désobéi à l'État, mais à leurs supérieurs, puisqu'ils avaient des ordres pour arrêter les Juifs.
Qui était Giuseppina della Sala en religion sœur Thomasine, honorée le 3 mai à Pays?
Alors, c'était une religieuse qui dirigeait une maison d'enfants à Pays et qui accueillait donc des enfants. Et les enfants, sans considération de leur origine, de leur couleur de peau, simplement en disant ce sont des enfants qu'on accueille. Les parents étaient souvent des communistes ou des résistants qui étaient pourchassés, ou des juifs qui étaient également pourchassés. Elle ne demandait rien et elle, le fait qu'elle était religieuse, elle leur donnait aussi des faux certificats de baptême. Donc elle risquait, si elle avait été dénoncée ou prise, elle risquait d'être emprisonnée également.
Comment sont honorés les justes en France et à Jérusalem?
Alors ils sont honorés, comme vous l'avez vu à Pays, avec la remise d'une médaille par un diplôme d'honneur qui est remis par le représentant de l'ambassade d'Israël en France. De plus, Yad, c'est le mur, c'est la pierre. Shem, c'est le nom. Yad Vashem. Leur nom est inscrit pour l'éternité à plusieurs endroits. Dans un mur, le mur des justes et l'allée des justes à Jérusalem. Si vous allez à Paris, derrière l'hôtel de ville, il y a également l'allée des justes parmi les nations. Et à Nice, si vous allez sur la colline du château, vous verrez qu'il y a un grand mur avec tous les noms des justes parmi les nations des Alpes-Maritimes. Et souvent, alors justement, honoré, ce titre est important puisque certaines personnes qui décèdent, malheureusement, des justes parmi les nations, sur leur tombe, il y a leur nom, souvent, leur prénom, leur date de naissance et date de décès, et le titre de juste parmi les nations. Et c'est pour montrer que pour eux, pour ces personnes-là, c'est un des titres les plus importants.
L'antisémitisme n'est pas mort. Certaines profanations nous le rappellent douloureusement. Que faire pour éradiquer définitivement ce type de discrimination?
Alors, définitivement, ça va être très difficile, mais on peut faire quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure la tolérance. C'est là une des premières des choses. C'est l'apprentissage, la pédagogie, de montrer autour de nous qu'il n'y a pas de race, parce que le mythe des nazis, c'était qu'il y ait une race supérieure. Il n'y a pas de race supérieure. On est tous différents, on n'a pas la même couleur de cheveux, surtout moi, et on n'a pas la même couleur de peau. Ça ne change rien, il y a une seule race, c'est la race humaine. Donc la seule chose qu'on peut faire, à mon avis, que vous-même, vous en parliez autour de vous, qu'il n'y a aucune différence dans la race humaine, il y a une seule race, la race humaine, on est tous différents, heureusement, mais ce n'est pas une raison, parce qu'on est différents, qu'il y a des gens supérieurs et inférieurs.
Notre émission se termine sur Radio Rabelais. Merci Monsieur Daniel Vancier d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président du comité Nice Côte d'Azur Yad Vashem et que vous avez été enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux persécutions antisémites des nazis. Vous serez toujours le bienvenu dans nos studios. Chers auditeurs, à bientôt sur notre antenne pour un prochain numéro d'Alter Ego.